1, 2, 3, 4, 5, 6.
Salut, c'est Yann, avec vous pour l'émission Le Grand Tout, une dernière émission cette semaine et puis une dernière émission cette année, tout simplement, qui va s'achever, cette première partie de la saison 2025-2026, avec une émission Champ Libre A. Aujourd'hui, on reçoit l'artiste Mioche, qui est allé faire un tour à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres et est revenu avec les bras chargés de documents de toutes sortes, surtout des CD, un vinyle, un gros livre aussi, et avec lui nous allons parler de sa sélection et puis aussi de son travail en forme de voyage à travers les époques, ce qui lui permet de mettre en lumière des sujets sensibles, notamment dans son travail de tapisserie et de peinture sur jarre, la consommation des ressources naturelles, les zones à défendre ou encore les rapports de domination en société. Voilà autant de thèmes qu'il tente d'aborder dans ses œuvres. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne émission. Comme tous les derniers vendredis du mois, eh bien c'est Champ Libre A. On se balade à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres avec un acteur de la scène artistique rennaise. Et aujourd'hui, eh bien c'est un artiste plasticien, on va dire, Antoine Martinet dit Mioche. Bonjour Mioche.
Bonjour.
Sur les œuvres duquel vous avez déjà marché, peut-être. Eh oui, c'est possible. On a pu marcher sur ta carte, peut-être au musée de Bretagne.
C'est, oui, certainement. Là, il y a beaucoup de gens qui marchent en ce moment dessus, je pense. Là.
Et puis, on a pu la voir aussi, ta pratique sur les murs de Rennes. Depuis 2015, peut-être, il y a eu divers bâtiments, aussi bien le Liberté, les Champs Libres, je pense, le 4 bis, qui ont vu aussi tes dessins et tes peintures. Et puis, parfois, il y a eu même avant ça, des choses un petit peu plus à la marge dans les interstices de la ville, comme ça, où tu as pu t'exprimer. On va revenir au tout début peut-être de tes pratiques artistiques, Mioche, si tu veux bien. On va se balader dans une sélection musicale et cinématographique assez vaste. Des grandes contrées nous attendent pendant cette heure d'émission Champ Libre A, saison 3, épisode 4. Mais on va revenir au tout début. J'ai pu lire sur Quai 36, par exemple, que ton histoire, c'est l'histoire d'un sale gosse qui tombe dans la bombe dès le lycée. Est-ce qu'on peut revenir dès là? Et puis on va pas rester très longtemps au lycée, on va partir ailleurs après.
Oui, en effet, le graffiti, ça commence, j'ai 16 ans, je suis à Nantes, au lycée, un lycée art graphique, où je commence à faire du graph avec quelques amis. Et en fait, ça s'appelle le collectif B2M à l'époque. Et j'étais le plus jeune de la bande et je me suis retrouvé à m'auto-nommer Mioche. Sauf que j'ai changé le C en S pour créer de la distance avec l'enfant qui est en moi. Et je suis toujours un Mioche à 41 ans, donc il y a quand même un truc à régler, je pense, sur ce pseudonyme. Bref.
Tu gardes peut-être de l'enfant cet émerveillement régulièrement renouvelé, sans doute avec des nouvelles passions qui arrivent dans ta vie régulièrement.
Ouais, c'est sûr qu'il faut toujours avoir un rapport, je pense, comme tu dis, surtout quand on est un artiste, avoir un regard et des pratiques qui évoluent. Et effectivement, j'ai pas que le dessin et la peinture murale. La musique compte beaucoup et la musique nourrit ma pratique visuelle et ça devient un sujet même. Maintenant, je dessine beaucoup et je peins beaucoup autour de la fête et la résistance. Bon, on en reviendra, j'imagine, après.
Mais... On va y revenir, notamment avec une œuvre dont je n'ose pas dire le nom parce que c'est du breton et que je maîtrise mal. Mais bon, on en reparlera de cette jarre qui est une des dernières acquisitions du musée de Bretagne. Et c'est une jarre en grès avec de la peinture acrylique sur elle-même. Voilà, bon, on reviendra à ça. On va peut-être passer de la case graffiti un peu clando, voire complètement vandale au début, jusqu'à peut-être l'arrivée à Rennes, où là tu vas aller du côté plus académique peut-être de l'expression artistique.
En effet, puisque je 2000, j'arrive, je rentre aux Beaux-Arts de Rennes, et ça me donne aussi un bagage qui n'est pas juste uniquement peindre dans la street, puisque je découvre toute une histoire de l'art, et toute une culture qui fait que je commence à peindre aussi des sujets qui appartiennent à ces époques lointaines, la Grèce antique, l'Égypte ancienne, la Renaissance flamande, Jérôme Bosch. Et tout ça me donne cette capacité de peindre dans la rue sur ces grands sujets des archétypes de l'histoire de l'art, quoi. Et donc c'est un principe que je développe depuis maintenant quelques années, où je revisite des artistes, des archétypes, des formes, comme la jarre, comme la tapisserie, comme la stylisation des amphores grecs, figure noire, figure rouge, mais avec des sujets, je les ramène à la réalité, notre réalité contemporaine, avec des sujets contemporains plus ou moins engagés.
Et finalement, en faisant ça, tu t'exprimes comme les artistes qui, à l'origine, peut-être faisaient ces jarres, faisaient ces tapisseries, avaient une pratique qui n'était pas seulement artistique, qui n'était peut-être même peut-être pas tant que ça, mais artisanale, et puis qui voulaient documenter aussi le temps.
Oui, bah ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien cette idée de faire voyager les œuvres avec ce même support à chaque fois, et j'aime bien être dans une sorte de format reconnaissable. Et après, ce format-là, on peut le tordre et on peut lui rajouter de l'étrange, on peut lui rajouter des attributs. L'idée de la métamorphose à travers les sujets, mais en gardant des formes universelles, moi, c'est ce que j'ai trouvé. En tout cas, c'est ma forme d'expression. Et je pense que c'est un fil, quoi. C'est un fil conducteur.
Ce sera un peu le fil conducteur de cette discussion qu'on aura émaillée. Cette discussion de petites incursions musicales. Et on va commencer directement, je pense, dans un côté important pour toi, qui commence quand exactement cette pratique en tant que participant à des rave parties.
Je pense que j'ai pas commencé par la rave party, j'ai commencé par les clubs. Mais des clubs à l'époque, j'ai 17 ans, je découvre Jeff Mills justement dans une espèce de boîte de campagne. Je me demande si c'était pas Luxor en fait, mais c'était entre Rennes et Nantes. Et on est en 2001 et je suis avec mon pote Jérémy Labelle et on se retrouve catapulté dans cette teuf, qui n'est pas une teuf en fait, mais où il y a beaucoup de teufeurs bizarrement, puisque à l'époque, il y avait cet entre-deux en fait, il y avait aussi des espèces de le public de la teuf qui se retrouvait aussi dans des boîtes, parce que finalement on voulait voir ces artistes, on voulait voir les gens de la techno de Détroit, et Jeff Mills ça a été tellement une claque que je pense que ça a bouleversé, même 20 ans plus tard, ce truc de mixer de la techno cosmique, je sais pas comment l'expliquer, mais très abstraite, de manière très rapide, et on n'a rien compris, quoi. C'est ma première grosse émotion avec le pied, quoi.
Quand tu dis on n'a rien compris, mais ça a laissé des souvenirs tout de même.
Ah, oui, c'est sûr. Jérémy, lui, il a continué de son côté. Et moi, j'ai commencé à mixer aussi, parce que je mixe aussi de la musique. Et ça a été, pendant longtemps, il m'a accompagné dans mes bacs, Jeff Mills.
Sélection par Mioche, notre invité aujourd'hui, dans Champ Libre A, saison 3, épisode 4. Quel moment de ce disque-là qu'on va entendre ?
C'est Chains of Life, qui est un morceau clavier, et avec un gros pied et un clap très saturé, clavier rave en fait. Ça pourrait faire penser à la teuf à l'anglaise, Spiral Tribe, Prodigy, sauf que là c'est Techno de Détroit, et c'est un peu le morceau le plus solaire de Waveform Transmission volume 1, qui est l'album sur lequel j'ai choisi ce morceau. We'll be right back.
Jeff Mills, choisi par Mioche, notre invité, dans l'émission Son Libre à saison 3, épisode 4. Je ne le dirai pas 10 fois non plus, hein, vous êtes là, j'espère vous rester avec nous jusqu'à la fin. On va parler musique techno, parler rave party, mais sur le côté un peu plus universitaire de la force, alors avec Guillaume Kosmiki, qu'on retrouve assez régulièrement à Rennes, hein, dès qu'il s'agit de parler précisément de musique sérielle, de musique contemporaine, de musique baroque, de... Oui, bon, il peut parler de toutes les musiques.
C'est
une bible humaine, Guillaume Kosmiki, qui s'est intéressé à la rave.
Bah, il s'y intéressait, c'est-à-dire que c'était un acteur de la rave. D'ailleurs, son blaze d'artiste liveur en rave, parce qu'il joue sur des machines, c'était professeur Monsieur Tournesol ou professeur Tournesol, je sais plus. Du coup, il avait cette espèce de techno un peu psychédélique, très perché, très LSD. On a déjà fait des teufs ensemble, du coup, j'avais été chez lui dans une espèce de petite fête privée dans son jardin, mais qui se transforme en mini rave. Et effectivement, une histoire des histoires, bah, j'ai lu par la suite cet ouvrage qui parle de la culture rave depuis l'Angleterre jusqu'à nos contrées françaises et en Europe même. Et donc il parle de cette culture, de l'essence, de pourquoi la rave, pourquoi on a besoin comme ça de se dépenser et de s'épuiser dans la musique et en communauté jusqu'au petit matin. Et en fait, c'est une sorte de monde parallèle qui, moi, m'intéresse, puisque c'est à la fois un échappatoire, mais c'est pas que ça, en fait. C'est quelque chose de palpable aussi. C'est une manière de vivre. Ça peut être une manière de vivre. Bon, moi, je le vis pas comme un raver traveler, mais ça me fait un bien fou, en fait, d'y aller de temps en temps. Même si maintenant, je vais plus dans les raves techno, hein, j'ai plus un rapport à la musique expérimentale électronique et plus dans une petite fête artisanale entre amis. Ce bouquin m'a fait du bien et m'a conforté dans l'idée que c'est une vraie contre-culture qui c'est pas juste des adolescents, c'est juste ça, c'est un message pour les un peu plus mainstream, quoi. C'est une vraie culture et qui a besoin d'exister, et la répression policière n'est pas la solution, en fait. Il y aura toujours la fête sera toujours là, elle sera toujours libre.
Il y a un côté éminemment politique, évidemment, dans le fait de se balader comme ça librement en communauté, de poser sa zone d'autonomie temporaire à un endroit
et
d'utiliser avec les autres et puis s'en aller ailleurs parce que voilà, on reste pas tout le temps au même endroit. Ça va rejoindre évidemment des réflexions plus récentes. Peut-être pas, tu les as depuis longtemps, ces réflexions-là, sans doute, mais des travaux artistiques que tu as fait autour, justement, de ces luttes qu'ils aient eu lieu dans les années 1970 ou au début des années 2010.
J'imagine que tu veux parler de la jarre qui a été acquise par le musée de Bretagne.
Exactement.
Récemment. Oui, en fait, c'est une jarre engrais qui date... en fait, juste pour resituer, les jarres, je les chine. Je ne les cuis pas, je ne suis pas céramiste. Je vais les récupérer, je vais à la pêche au format, quoi, aux amphores, aux jarres. Et donc,
tu vas pas à la pêche au sens propre.
Je pourrais, elle pourrait être effectivement au fond des abysses bretons, mais non. Celle-ci, je sais plus où je l'ai chopée, mais en tout cas, c'est une jarre en grès noir en terre cuite, qui a été cuite, mais qui est peu émaillée. Donc, en fait, elle peut recevoir la peinture facilement. J'ai décidé de travailler sur une thématique qui m'est chère parce que j'aime aller à Plogoff. Notamment pour surfer. Et à chaque fois que j'y vais, je me dis c'est quand même dingue, il n'y a pas cette centrale nucléaire qui aurait dû être érigée dans les années 70. Je remercie nos lutteuses et nos lutteurs bretons, puisque là, c'est clairement grâce à eux et elles qu'on n'a pas eu cette énorme centrale. Et donc voilà, c'est un hommage, cette jarre est un hommage à la lutte antinucléaire à Plogoff. Elle s'appelle Dal Plogon, Dalek Plogon. Donc tiens bon Plogon, ça veut dire en breton. Et donc pour la décrire rapidement, c'est une sorte de répétition de motifs de personnages qui sont en train de, avec des lance-pierres, des femmes plutôt, qui sont en train de viser des CRS dont le bouclier, qui est à l'époque, dans les années 70, le bouclier était rond. Donc ça tombe bien puisque j'ai calé le logo nucléaire, cette espèce de triskel maléfique. À l'intérieur de ce bouclier, il y a cette espèce de course-poursuite entre les CRS et les femmes au lance-pierre.
Comment ça naît en toi, finalement, cette envie de déplacer ces luttes-là sur une œuvre d'art Est-ce que c'était vraiment de l'art à l'origine? Ça l'était sans doute pas, hein. Enfin, pas tout. Il y avait un côté utilitaire à ces jars, et puis certaines étaient mieux décorées que d'autres, sans doute. Mais qu'est-ce qui fait que tu as envie de plaquer l'un événement sur l'autre objet?
C'est un nœud, cette histoire. Moi, je trouve ça intéressant de brouiller les pistes, de raconter une histoire sur un objet qui n'est pas forcément lié, un objet historique, qui pourrait être historique et qui pourrait raconter d'autres choses que la lutte antinucléaire à Plogoff. Et c'est une discussion qu'on a eue avec Céline Chanas, justement, la véracité scientifique des objets. Effectivement, il n'y a pas forcément de jarre historique à Plogoff. Et j'aimais bien l'idée, moi, de brouiller les pistes et de raconter une histoire sur un objet qui est en fait un faux vestige. Et les gens vont peut-être croire, effectivement, que cette jarre est de Plogoff et qu'elle elle a été retrouvée par des archéologues qui ont documenté de manière artistique cette lutte. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est de brouiller les pistes. Je suis fasciné par la stylisation des personnages et la narration possible déjà sur le support amphore, puisqu'en fait on tourne autour donc du support. C'est un peu comme une BD, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir narratif qui est fort en fait avec l'amphore. Donc déjà c'est peut-être ça en fait. Et le caractère même de l'objet me fascine.
Et est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi peut-être d'un mouvement finalement, oui, qu'on peut imaginer?
Oui, c'est cinétique. Ouais. C'est vrai qu'on peut mettre l'amphore sur un socle et elle peut tourner sur elle-même. Oui, la circularité de la techno. Bon, c'est vrai que la répétition. J'aime bien les motifs répétitifs. Et effectivement, là aussi, on est dans un truc de répétition, d'obsession du motif. Mais j'ai pas complètement la réponse, je crois.
La platine vinyle.
Ouais, la platine vinyle. Mais le cercle, le cycle, le temps qui se dilate. Ouais, enfin, c'est l'amphore, l'universalité de l'objet. Tout ça rentre en ligne de mire. Ouais.
Vous pourrez retrouver donc cette acquisition du musée de Bretagne. Alors, je sais pas exactement comment le prononcer. Dalerplogon.
Alors, je sais pas trop, je suis pas bretonnant, moi. Mais c'est vrai que là, j'ai un peu exotisé le truc, mais parce que bon, je parle d'un sujet qui est breton, donc. Mais Dalerplogon, je crois.
Vous n'êtes pas obligé de le lire, vous pouvez aller la voir. Ouais.
Je sais pas encore quand elle sera installée.
Elle n'est pas encore installée, parce qu'elle est acquise, oui, mais elle n'est pas encore installée.
Oui, parce que là, il y a une refonte du musée de Bretagne, donc les collections sont un peu chamboulées, il y a des travaux.
Vous pourrez déjà la voir en image sur l'Instagram de Mioche, hein, ou sur
mon
mioche.fr.
Site, mioche.fr.
On va écouter de la musique à nouveau. Tu le présentais déjà, ce bon compagnon de musique, et pas seulement, et de vie aussi. Vous avez fait pas mal de choses ensemble, j'imagine, et pas seulement des rave parties. Label,
ouais. Alors là, j'ai sélectionné un morceau qui s'appelle Babette. Et pour faire un lien avec la techno de Détroit et la house de Chicago, parce qu'il n'y a pas que la techno, ce qui m'intéresse avec Jérémy et son rapport à la musique, et donc Babette, ce morceau, c'est que, un peu comme la musique noire afro-américaine, Jérémy s'inspire des racines de l'esclavagisme, en fait. Et donc, le Maloya, qui est une musique qui relate aussi et qui est musique vivante héritée des esclaves de La Réunion, y a un lien, en fait, entre la techno de Détroit, la Motown et le Maloya. C'est pour ça que j'ai choisi ce morceau, Babette. We'll be right back.
Dr. E. Kurtz. Your mission is to terminate the Colonel's command.
Terminate with extreme prejudice.
I love the smell of napalm in the morning.
Very obviously, he has gone insane.
This is the end, my only friend, the end.
Are you an assassin? I'm a soldier.
Après le Maloya de Label, alors transposé évidemment, on va revenir peut-être du côté de ce qu'on a appelé Vietnam, ce qui s'est appelé l'Indochine aussi un petit peu avant, et il est question d'une guerre de libération évidemment dans cette guerre du Vietnam, et Francis Ford Coppola lui nous place un petit peu dans un malaise comme ça, quoi. On est dans un malaise global entre les rapports entre les Américains et les Vietnamiens, entre les militaires entre eux, et puis entre un continent et un autre. Qu'est-ce qui t'a happé le plus, Mioche, dans ce film Apocalypse Now?
Déjà, je dois dire que je l'ai revu sur grand écran à l'Arvor il y a une semaine, et la version du milieu qui fait genre 3h10 ou 15. Je pense que j'étais pas vraiment passé à côté du film, mais là, cette fois-ci, j'ai pris une baffe vraiment à tout point de vue, que ce soit au niveau de la forme du film, au niveau de sa folie pure, parce que je pense qu'ils sont devenus fous sur le tournage aussi. Enfin, c'est ce que disait la personne qui présentait le film de la séance du dimanche soir, que ce film est devenu fou, en fait, dans son entièreté. C'est-à-dire, et de toute façon, le sujet l'est aussi, et ça raconte la folie des hommes jusqu'à un point d'horreur absolue. Et je l'ai choisi parce que ça parle d'un sujet qui est très actuel, c'est-à-dire le colonialisme qui est toujours là, et la société du spectacle aussi. L'imbrication entre le capitalisme, le colonialisme et la société du spectacle fait une sorte de trigonométrie là qui est incroyablement bien retranscrite dans Apocalypse Now. Je trouve que ce film n'a pas vieilli, et surtout en salle, c'était juste une expérience au niveau du son aussi, puisque le son, c'est la première fois que vraiment on a un son en je ne sais plus combien de points, 5.1 je crois, où il y a vraiment la puissance du son comme moyen de d'immersion dans le cinéma, et c'est un des premiers films qui vraiment fait école aussi, à cette époque, les années 70, le son était stéréo, quoi. Et ça m'a foutu une claque aussi à ce niveau-là.
Le son, toi, il t'accompagne constamment quand tu peins, quand tu dessines, quand tu inventes des nouvelles formes visuelles.
Oui, parce que j'ai du temps. En fait, c'est du temps à l'ouvrage, et donc j'ai du temps pour être en immersion avec. Ça peut être des podcasts, ça peut être des gens qui parlent. Mais la musique, je peux diguer en fait pendant que je peins, pendant que je dessine. C'est pas juste un background, mais ça l'est aussi. ça me nourrit à toutes les étapes de la création, mais comme je te disais, c'est aussi un sujet, la musique est un sujet, la danse, les corps sont des sujets dans ma peinture et dans mon dessin, quoi.
C'est très rare de rencontrer des artistes plasticiens qui ont aussi une pratique graffiti, qui n'ont pas d'écouteurs sur la tête,
c'est vrai.
En fait, ça c'est rare, ça.
Ouais, c'est vrai qu'on aime bien être en immersion quand on est dedans dans le dessin.
L'immersion, on poursuit avec cette émission qui est très bien préparée, comme vous le voyez.
Tout est très fluide là.
C'est Mioche qui a fabriqué ça, et c'est bien vu. Après l'Apocalypse Now de Coppola, on va After the War, une pièce, le troisième mouvement, on va dire, de cette pièce monumentale de Steve Reich, Different Trains, c'était en 1988. Alors, petite précision, pour vous qui allez le chercher, cet enregistrement à la bibliothèque des Champs Libres à l'étage numéro 2, il ne se trouvera pas, c'est une version différente que tu as préféré laisser de côté pour nous faire entendre ce qui t'avait vraiment frappé à l'écoute de ce qui arrive là.
Steve Reich, c'est une continuité de cette musique répétitive que j'ai d'abord appréhendé avec la techno, et avec ce truc du coupage de bandes, de décalage insensé, obsessionnel comme ça, d'enregistrement qui tourne plus ou moins harmonieusement, pour cette pièce-là, c'est quand même assez fluide. Et en fait, c'est, voilà, on entend des bruits de train, on entend... Il y a ces violons qui créent une sorte de temporalité comme ça, qui nous perd. Et c'est une invitation au voyage qui est incroyable, ce morceau.
Thank you.
Cette émission Champ Libre à Mioche aujourd'hui, eh bien, on se balade entre choses visuelles que tu nous décris et puis choses sonores que vous entendez. Vous entendiez Steve Reich, un extrait de la pièce, la partie 3 de ce Different Trains. On va poursuivre en musique électronique, peut-être un peu moins faite pour la fête, celle-ci, un peu plus pour le cérébrale comme ça, je pense elle est un peu plus contemplative aussi parfois, la musique de Hottecker, un musicien un peu complexe.
Mais ils sont deux, ce sont des Anglais qui d'ailleurs font aussi partie quelque part de la scène underground liée au début du renouveau, enfin l'émergence des musiques électroniques de danse, le début de la Acid House et compagnie. Ils sont très proches aussi de la scène Chicago, Détroit, Berlin des années 80, mais dès le début des années 90, ils sont un peu en marche puisqu'ils expérimentent plus dans les rythmiques, dans les polyrythmies, dans les arythmies aussi, dans un rapport de recherche, quoi. Et toujours, mais avec des rythmiques un peu breakées, cassées, mais avec un rapport à la mélodie qui est très existante aussi et assez romantique, surtout là ce que j'ai sélectionné sur Trirepetae, le premier morceau.
Hottecker à l'instant, si la musique d'Hottecker n'est pas forcément dédiée à la piste de danse, on sait qu'il y a quand même un grand amour pour cette façon de l'écouter, la musique électronique chez Hottecker. De la même manière que chez toi, il y a un grand écart permanent entre des pratiques plutôt street au début, urbaines, et puis Le côté académique aussi que tu aimes détourner récemment, aussi bien avec les jarres, qu'on a pu évoquer tout à l'heure, ou avec les tapisseries. On n'a parlé que de la jarre, et puis on n'a pas été assez loin peut-être dans ce mystère peut-être qu'il y a derrière une œuvre d'art, ce qu'on appelle une œuvre d'art. On a toujours un peu l'impression que c'est quelque chose de sacré, de mystérieux, et j'ai l'impression que toi tu veux un peu désacraliser ça.
Mais oui, mais c'est vrai que moi j'aime bien les comme je te disais, les supports assez identifiables. Et effectivement, la tapisserie aussi, c'était une tenture qui servait aussi à isoler les intérieurs de maisons dans l'époque médiévale, quoi. Et aussi, c'était très didactique. C'était aussi une manière de pouvoir faire lire sans les mots le petit peuple. Enfin, de pouvoir raconter des histoires, les épopées bibliques ou les épopées
guerrières,
ou faire la propagande des chevaliers, des duchés ou des comtes ou des vicomtes ou je ne sais quel, enfin tu vois le truc. Et effectivement, ce support-là, moi, il m'intéresse une fois de plus pour sa force narrative, un peu comme les vitraux des cathédrales, c'est-à-dire que tu peux foisonner dans le détail, et sachant que moi les tapisseries je les fais pas moi-même, hein, je les fais tisser par un atelier à Aubusson qui Néolis qui fait du point numérique d'Aubusson. C'est une sorte de grosse machine qui vient sortir les tapis en quelques heures. Alors je passe des heures sur mon ordinateur puisque je dessine avec des pixel par pixel, un peu comme les Space Invaders, tu vois, mais je zoome dedans, et ensuite je crée mes scènes qui sont souvent des scènes, là en ce moment, enfin en tout cas qui étaient liées à des zones à défendre ou à raconter des problématiques contemporaines de domination entre les peuples, ou des choses guerrières, mais toujours avec ce truc très très ludique, bizarrement. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que tu racontes des choses difficiles et tu le tournes de manière narrative et presque joueuse. Et la tapisserie crée cette distance. C'est ça qui me touche avec ce support, c'est que c'est mystérieux, puisqu'on en voit peu. C'est un vocabulaire de l'artisanat et du décor et du décoratif, mais ça peut être subversif si tu décides de raconter des choses qui ne le sont pas au premier abord, mais quand tu rentres dedans, ça devient une épopée plutôt dénonciatrice.
Mais je te vois vraiment à la croisée, c'est ça, du passé et du présent, et puis du prosaïque, et puis du beaucoup plus grandiose finalement.
C'est ça, ouais.
Et ça, on peut le voir aussi à travers les cartes que tu as pu faire, hein, celles que sur lesquelles on peut marcher au musée de Bretagne, ou celle que tu as fait, la carte de Bretagne, oui. Où tu dessines vraiment, mais tu utilises vraiment une technologie extrêmement pointue et contemporaine.
Une fois de plus, ce qui m'intéressait, c'était cette entrée politique de l'histoire des luttes bretonnes à travers une contrainte quand même qui est la cartographie, la géographie. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on se doit de montrer à travers la cartographie. C'est quand même beaucoup de contraintes visuelles, quoi. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait le littoral, il faut montrer les villes, il faut montrer toute une artillerie pour pouvoir raconter des choses qui moi m'intéresse, c'est-à-dire aller rendre hommage aux luttes historiques de Bretagne, quoi.
Sans pour autant laisser de côté le en avant Guingamp.
C'est collaboratif, cette carte. C'est-à-dire que j'avais un fichier Excel où on m'a proposé plein de d'icônes à représenter, et c'est vrai que l'idée, c'est d'être dans un travail collectif, quoi. Donc effectivement, il y a plein de choses. Il y a autant Notre-Dame-des-Landes, des petits bonhommes avec des pancartes, la Bretagne n'est pas une résidence secondaire, le joint français ou je sais pas moi, les Black Blocs contre les CRS à Rennes. Il y a tout, en fait. Mais il y a des choses qui viennent de moi et des choses qui viennent des médiateurs et médiatrices du musée de Bretagne.
Ce qui va suivre maintenant dans Champ Libre à Mioche, eh bien, ça va être du cinéma et de la musique encore, évidemment, ça va se mélanger. Hein. Tous les arts se mélangent chez toi, j'ai l'impression. Et avant de retrouver un peu de la musique, là, on va aller loin avec Omar Sharif et puis un film du désert.
Laurence d'Arabie. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, ce film, et je pense que ça fait partie de mes top 10 de toute ma vie. Alors pourquoi? En fait, Laurence d'Arabie, ça, si on parle uniquement de cinéma, si on oublie le sujet historique, ça préfigure tous les grands films hollywoodiens, Spielberg, Lucas, les films de désert, enfin les espèces d'épopées comme ça. C'est une grande aventure cinématographique. C'est du cinémascope, c'est vraiment impressionnant en termes de... Ça dure 3 heures. Et il y a de l'étrange, il y a ce truc, l'étrangeté qui est vraiment aussi très présente. C'est-à-dire que c'est une épopée, mais qui met en scène une sorte de général qui se déguise un peu en femme, qui est général anglais, et qui va se retrouver finalement en amour pour ses tribus qu'il est censé séparer, puisque le gars, c'est quand même un anglais qui va redécouper la cartographie du Moyen-Orient. Enfin, il fait partie des Anglais, quoi. Et donc, il y a une tension comme ça et une beauté entre ce personnage-là, qui est complètement en décalage avec sa fonction militaire, et son amour pour les tribus locales. C'est quelque chose d'assez fou à ce niveau-là. Et voilà, j'ai sélectionné ce film parce que j'ai rarement vu des choses aussi puissantes en cinéma.
Thank you.
Mioche, notre invité aujourd'hui dans Champ Libre à saison 3, épisode 4. Fait des petits big up à des amis, on entendait la belle tout à l'heure. Et puis à l'instant, c'était High Wolf. Là, une musique qui va aller coller deux univers qui sont pas opposés hein, finalement, mais qui sont un peu distants quand même. Les musiques traditionnelles et puis la musique électronique.
Distant, mais pour moi, c'est la circulation des samples et des enregistrements, c'est quelque chose qui est hyper logique, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que tout mélanger, c'est peut-être aussi un truc de principe, de travail aussi. Mais en tout cas, en musique, moi, je trouve ça super cool de recréer du faux trad. Mais d'ailleurs, comme en visuel, comme je fais aussi, de faire du faux vestige, du faux trad. Et alors, High Wolf, il est très bon pour ça, ouais. En tout cas, son projet n'existe plus maintenant, il s'appelle Black Zone Mitchant. Mais ce projet-là, il travaillait beaucoup comme ça, en résonance avec certaines cultures très spécifiques, certaines musiques hyper pointues de tribus ou qui appartiennent à certains pays. Assez identifiable comme ça, comme les flûtes ou les espèces de guitare. Et j'aime bien ce mélange où on sait plus en fait où on est, si c'est du trad ou pas.
Vous découvrirez par vous-même le vinyle d'où a été extrait cette pièce-là. Il est à l'étage numéro 2 de la bibliothèque des Champs Libres. Comme à peu près tous les documents qu'on a évoqués aujourd'hui, bah si, tous, sauf que oui, le Steve Reich, c'était pas exactement le même que celui qui est au Champs Libres. Vous demanderez au bibliothécaire de le commander, voilà, si vous voulez le découvrir. On va arriver à la fin et c'est une sorte de résumé hein, de tout ce que tu as pu dire peut-être Antoine Mioche avec cette dernière œuvre qui est une œuvre monde, on peut le dire, issue du cerveau. Ils sont deux à avoir créé la série, mais un réalisateur qui est mort il y a pas très très longtemps et qui lui aussi avait plusieurs mondes dans son cerveau, je crois.
Oui, David Lynch, Twin Peaks, effectivement. Pour moi, c'est une œuvre totale. Je suis pas vieux, hein, j'ai 41 ans, mais j'ai encore rien vu d'aussi puissant si on prend tout support confondu, tout médium confondu, notamment parce qu'il y a un truc qui me dépasse et qui je trouve incroyable chez David Lynch et surtout dans cette œuvre qui dure 40 ans, puisqu'en fait, entre le début de Twin Peaks et la dernière saison, il se passe plus de 30 ans, il me semble. Et c'est justement ça qui me rend fou, quoi. C'est que le rapport au temps et la dilatation du temps et le rapport au fait qu'on retrouve des personnages 20 ans plus tard, je pense que ça s'est jamais fait de cette manière dans n'importe quelle œuvre. Et le fait de retrouver... En tout cas, moi, j'ai une sensation ultra... Enfin, l'émotion était incroyable de retrouver les personnages et de les faire évoluer dans un truc de non-nostalgie, puisque en fait, il va vers complètement autre chose avec... Et la saison 3 finalement devient aussi, j'avais peur de la regarder cette saison 3 et en fait elle vient sublimer les deux autres saisons et ça crée pour moi une œuvre qui est encore plus forte et j'ai pas les mots en fait, c'est les libertés qu'il se prend, c'est juste incroyable quoi.
En littérature ça s'est fait avec Dumas mais pas forcément au cinéma ou en série.
Ouais mais c'est ça, tu t'éprouves je pense encore plus ce rapport au temps. Et pour en revenir aussi à la manière dont les choses se font, c'est que un peu comme Tarantino, c'est-à-dire il vient travailler le genre, il vient travailler des cases populaires et il est tort et il peut en faire ce qu'il veut. Je pense que, enfin moi ça m'inspire beaucoup puisque je fais aussi ce truc-là, c'est-à-dire je viens récupérer des formes connues de tous et j'essaie après de raconter, de les tordre un peu et de raconter d'autres choses. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça me... J'aime bien l'idée de quelque chose de populaire et de mainstream et qui finalement est complètement tordu, complètement étrange, complètement bizarre. Je pense que c'est ça qui me bouleverse chez David Lynch et notamment sur Twin Peaks.
Je te laisse peut-être, Antoine, nous donner quelques petits rendez-vous, si tu as envie, avec cette jarre. Peut-être, on ne sait pas encore, quand est-ce qu'elle sera montrée au Musée de Bretagne.
Je pense que ça réouvre en mai pour les Journées du Patrimoine, le Musée de Bretagne. Donc la jarre ne va pas être visible avant. J'ai pas d'expo de prévu tout de suite. Là, je suis plutôt en travail à l'atelier. Voilà, en ermite, quoi.
ou ailleurs à Bayonne, ailleurs, par exemple.
Oui, bah ça c'était il y a 2 mois, en effet. Mais c'est très il y a une saisonnalité dans mon travail. Je participe à des festivals, je fais des murs, je fais quelques œuvres murales l'été ou à la bonne période. Mais oui, effectivement, la dernière fois c'était pour le festival Point de Vue à Bayonne avec le musée Bonnailleux il y a 1 mois et demi.
Vous retrouverez en tout cas tous les événements autour de Mioche sur Mioche, MIOSHE.fr ou sur ton compte Instagram. Et puis vous avez rendez-vous maintenant avec une petite madeleine, plus que ça, c'est une hyper madeleine ce générique de Twin Peaks. Et vous verrez, c'est ça, vous verrez les films de David Lynch, alors pas la série pendant Travelling, c'est sûr. Et puis avant ça, autre mesure, le festival de musique contemporaine Insidu vous permettra de retrouver un hommage à David Lynch avec In My Hand le 17 février.
Ah si, alors il y a la série Twin Peaks en intégralité qui va être diffusée sur Arte en janvier. C'est aussi intéressant de le dire.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à dans un mois pour un nouvel épisode de Champ Libre. Ah, merci.
Merci.
Merci à Mioche de s'être prêté au jeu de Champ Libre A. C'était l'épisode 4 de la saison 3. Je remercie très chaleureusement, évidemment, Clarisse Mérour et Antoine Blanchet à la Bibliothèque des Champs Libres qui nous accompagnent dans cette aventure depuis 3 saisons maintenant. On se retrouvera après quelques semaines, 2 seulement, de repos réparateur pour 2 nouvelles émissions Le Grand Tout. Et on se retrouvera précisément le 5 janvier. Et on retrouvera DJ Martin avec une présentation de sortie de son label Stereofunk. Le 6 janvier, on retrouvera Cécile Carrel, comédienne désormais. On la connaît pour ses bouquins et là, vous la retrouverez avec un spectacle Si rien n'est vrai. Et puis, on parlera aussi beaucoup du festival Autre Mesure au mois de janvier sur Canal B et dans Le Grand Tour. Retrouvez playlist et réécoute des émissions sur canalb.fr. Et donc, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. Et puis, de bonnes fêtes si vous les fêtez. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.